Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons l'étude fabuleuse, merveilleuse, au sujet le vainqueur. Nous sommes à la sixième étude. Nous aurons aujourd'hui trois parties intéressantes. Primo, la source abondante de bénédiction. Secondo, il enseignera. Qui cela? Le Saint-Esprit. Tierso, le Saint-Esprit dans l'Église. Nous commençons donc par la source abondante de bénédiction. L'une des promesses les plus précieuses dans l'Ancien Testament est celle qui compare le croyant à un jardin arrosé et à une source dont les eaux ne tarissent jamais. Ésaïe chapitre 58, verset 11. Dans cette promesse est contenue une double bénédiction, les deux aspects de cette vie à laquelle nous sommes appelés. Le croyant doit être comme un jardin, un endroit clôturé, planté et cultivé par le Seigneur. C'est son privilège de savoir qu'il est entouré, mis en garnison par la paix et la puissance de Dieu, donc un enclos dans la présence même de Christ. Il est non seulement la propriété du Seigneur Jésus-Christ, il est dans la possession du Seigneur. Et dans ce jardin, une graine incorruptible est semée, les faits, les doctrines, les commandements, les promesses de la parole inspirée, donc une graine qui produit du fruit d'après son espèce. De nouveau, elle est à ses soins. Il déclare, « Moi, le Seigneur, je la garde. » Mais la force de la promesse repose dans les mots « un jardin arrosé ». Il peut être bien clôturé et bien planté de vérité, et pourtant, au lieu d'être une image de fraîcheur et de fertilité, l'endroit peut être un lieu d'absence de vitalité et de stérilité. Tu seras comme un jardin arrosé, c'est-à-dire ton âme goûtera les influences rafraîchissantes de l'Esprit de Dieu. La vérité ne sera pas seulement possédée dans la lettre, mais dans toute sa puissance réjouissante et stimulante. Chers amis, cette promesse est réconfortante pour ceux qui étant conscients de leur manque de vie spirituelle, qui ont soif de réalisations plus complètes et beaucoup plus profondes de la bénédiction divine. Mais examinons un peu l'autre aspect du privilège. Tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau. Je répète, tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau. Notons le petit mot « et » qui est tel un rivet en or relié ou qui relie plutôt les deux parties de la promesse. Un jardin arrosé place devant nous la pensée d'une abondance reçue. Mais une source, c'est-à-dire celle d'une abondance jaillissante. Dans l'une, nous voyons comment le croyant est béni. Dans l'autre, comment le Seigneur Jésus-Christ fait de lui une bénédiction. Une source d'eau, un très bel emblème du saint et conséquent disciple du Seigneur Jésus-Christ. La pensée qu'il suggère est le contraire même de l'égoïsme, non pas obtenir, mais donner. Il devient un centre de rafraîchissement de vie, de pureté, de joie et de bonheur. Mais n'oublions pas d'examiner les mots dont les eaux ne tarissent pas, c'est-à-dire une source constante de bénédiction. Quelqu'un se demande-t-il, est-ce que cela peut vraiment être mon expérience? Est-ce une bénédiction que je peux rechercher et m'attendre à obtenir? Oui, et oui, assurément, c'est un privilège qui n'appartient pas à quelques personnes seulement, mais à tous les enfants de Dieu. Donc, il vous appartient. Alléluia! Mais vous pouvez demander à nouveau, comment cette promesse peut-elle être obtenue? Comme toutes les promesses de Dieu le sont, par la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 33. Mais, indépendamment de son objet, la foi n'est rien. Et l'objet de la foi, c'est Christ. Oui, de lui seulement, il peut être dit, dont les eaux ne tariront pas. Comment alors les mots peuvent-ils être dits à propos du croyant? D'une seule manière, cette fontaine dont les eaux sont inépuisables doit être en lui. Merci Seigneur. Christ doit demeurer dans son cœur par la foi. Christ glorifié dans le cœur par le Saint-Esprit. C'est la fontaine de vie. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Saint Jean chapitre 4 verset 14. Dans ces paroles de notre Seigneur, nous avons l'écho du Nouveau Testament, de cette promesse de l'Ancien Testament, prise avec celle du chapitre 7 de Saint Jean. De lui, est-il dit, couleront des fleuves d'eau vive. Nous avons l'idée globale présentée dans la pensée. Tu seras comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié, chers amis. Donc, la bénédiction qui est placée ici devant nous, dans la dernière partie de la promesse, est une promesse d'utilité. Exercer un ministère auprès des autres, une bénédiction caractérisant notre service, que ce ne sera pas une lutte vaine ou intermittente, mais un débordement continu et surtout spontané. Oui, les eaux vives jaillissant d'abord à l'intérieur et puis s'écoulant ensuite vers les autres. Donc, un point supplémentaire relié à la promesse ne doit pas être négligé. Il existe des obstacles à sa réalisation qui doivent être mis de côté. Les riches privilèges auxquels il est fait référence sont clairement conditionnels. nous lisons au verset 10 de ce merveilleux chapitre Ésaïe 58, « Alors ta lumière se lèvera sur l'obscurité », etc. Des paroles qui dirigent nos pensées vers ce qui s'est passé avant. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Voilà l'esprit qui est tellement étranger au plaisir de la bénédiction contenue dans la promesse. Hélas, une bonne part de cet esprit peut être vu même au sein de l'Église de Christ. Un esprit de tyrannie, de mépris, de discours malsains. Il peut exister sous les atouts ou les atours d'un zèle très religieux, mais aussi longtemps qu'une telle condition de l'âme est entretenue, croyez-moi, le Saint-Esprit est attristé et une barrière efficace est érigée face à la réception de la bénédiction décrite dans ce merveilleux passage. Deuxièmement, il est dit qu'il enseignera. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Récemment, je fus amené à faire des recherches dans tous les livres, et j'en avais beaucoup, croyez-moi, quelle horreur, oui, trop, beaucoup trop, et les aides d'enseignement biblique que je possède pour découvrir quelle place est accordée dans ces ouvrages à la personne du Saint-Esprit dans la préparation des enseignements pour l'enseignement biblique. Tandis que je passais d'un volume à un autre pour lire les notes d'introduction aux professeurs divers, je fus étonné de découvrir que dans l'un après l'autre, il n'est fait, et je le dis pour une amie qui s'appelle Sabine Reichenbach, pasteur, il n'est fait aucune mention du nom du Saint-Esprit. Et dans aucun des livres en ma possession, il n'existe aucun enseignement positif à propos de la personne et de l'œuvre merveilleuse de Dieu le Saint-Esprit, oui, par rapport au ministère de l'enseignement de sa sainte parole. Je sais que toutes ces aides pour préparer des leçons que j'ai moi-même utilisées avec beaucoup d'avantage et qui contiennent des ressources excellentes ont été préparées par des hommes et des femmes sous le contrôle de l'Esprit-Saint de Dieu et qui connaissent par expérience dans leurs propres enseignements la nécessité d'une dépendance absolue envers le Saint-Esprit. Mais je me demandais si dans la formation des jeunes enseignants au sujet des Saintes Écritures, nous ne parvenions pas à donner la place que nous devrions à la reconnaissance positive de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'enseignant et sans qui le ministère de tout notre enseignement est absolument vain. Je répète, hein? Donc, je dis bien, et je pense que nous devrions répéter cela, la reconnaissance positive de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'enseignant, et sans lequel le ministère de tout notre enseignement et vain. Et ce fut avec ces pensées à l'esprit que naquit un grand désir d'apporter une certaine contribution à ce sujet. Puisse, chers amis, le Saint-Esprit lui-même, utiliser ce qui est écrit pour encourager le cœur de tous ceux qui cherchent à enseigner la sainte parole de Dieu avec une connaissance de sa présence et de sa puissance et nous éveiller au sentiment de notre responsabilité à travailler en communion avec lui. Rappelons-nous tous que si notre plus grand désir est de mettre en premier notre Seigneur Jésus-Christ et de le glorifier. La meilleure manière de le faire, c'est d'accorder au Saint-Esprit la place qui lui revient, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, il a dit quoi? Il a dit qu'il me glorifiera. Vous pouvez noter Saint Jean chapitre 16, verset 14, et vous verrez que cela figure. Et en parlant de l'enseignement de la parole de Dieu, nous ne devons pas davantage exclure Dieu le Saint-Esprit que nous n'exclurions Dieu le Père de la création ou Dieu le Fils de l'œuvre du salut. Voyez-vous, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples les merveilleuses paroles relatées en Saint Jean chapitre 14 et chapitre 16, et qu'il leur dit qu'après son ascension, il leur enverrait un autre consolateur. Oui, chers amis, la première déclaration positive qu'il fit à propos de l'œuvre de ce consolateur fut qu'il enseignerait. Saint Jean chapitre 14, verset 26. Il vous enseignera toutes choses, est-il dit. Donc, mes chers amis, pensons à ce grand enseignant qui est Dieu, le Saint-Esprit, bien au-dessus de tous les professeurs de Tübingen, donc de l'université de Tübingen, et bien au-dessus même de ceux de la Sorbonne. Pensons donc à ce grand enseignant. Premièrement, nous avons sa personne. Oui, sa personne. Dieu le Saint-Esprit est une personne. Cela ne veut pas dire qu'il a un corps. Alors là, évidemment, il y en a qui vont pas aimer, parce que c'est difficile à comprendre, ça fait rien. Moi-même, j'ai dû le comprendre après coup. Eh bien, vous voyez, je ne suis pas plus intelligent que les autres, surtout pas, quelle horreur. Le corps n'est donc pas nécessaire à la personnalité. Dieu est une personne, mais il paraît qu'il n'a pas de corps, comme vous et moi en avons un. N'importe quelle personne est constituée de trois choses. Donc, un esprit qui pense, des émotions qui ressentent, et une volonté qui choisit. Le Saint-Esprit les a toutes les trois. D'abord l'Esprit. Selon Romains, chapitre 8, verset 27. Vous savez, j'essaie de tout vous donner, toutes les preuves, selon la sainte parole de Dieu, hein, pas que vous pensez que j'invente quelque chose. C'est celui qui sonde les cœurs et qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit-Saint. Ensuite, nous avons les émotions. Selon Romains, chapitre 15, verset 30. L'amour de l'Esprit-Saint. Ensuite, nous avons la volonté. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, pas comme nous voulons. Hein? Nous avons des désirs parfois exagérés. Nous nous croyons au-dessus de beaucoup de choses, plus importants que nous le sommes. Et là, il y a un problème, n'est-ce pas, pour certains. Ne pensez pas au Saint-Esprit comme étant simplement une puissance ou une influence, mais il est une personne, tout aussi réellement que Dieu le Père, Yahvé l'Éternel, est une personne, et le Seigneur Jésus-Christ est une personne. Non seulement il est une personne, mais il est une personne divine. C'est Dieu le Saint-Esprit, égal à Dieu le Père et à Dieu le Fils dans la divinité. Eh oui, de nombreux arguments extraits de l'Écriture sainte pourraient être utilisés pour soutenir ce point de vue. Nous ne penserons ici qu'à deux. Hein? Deux. A. En Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus-Christ a dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non au nom pluriel, mais au nom singulier, un nom, trois parts égales, un, le Père, deux, le Fils, trois, et le Saint-Esprit. B, en Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3 à 4, l'apôtre Pierre a dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. » Du reste, ça a très mal fini pour certains. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Donc, mentir au Saint-Esprit, c'est tout simplement mentir à Dieu, n'est-ce pas? Puisque le Saint-Esprit est une personne divine, le traitez-vous comme tel, chers amis? L'aimez-vous? Lui faites-vous confiance? L'honorez-vous et lui obéissez-vous, tandis que vous enseignez, eh bien, puisque vous enseignez, puisque vous prêchez, reconnaissez-vous la personne du grand enseignant, au-dessus peut-être et certainement de nous tous. Et deuxièmement, sa présence. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ monta au ciel, son œuvre de rédemption étant accomplie, Dieu le Père lui donna le Saint-Esprit et Jésus-Christ envoya son Esprit Saint sur terre pour faire d'elle sa demeure. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Aussi vrai que le Seigneur Jésus-Christ a fait de cette terre sa demeure pendant 33 ans, le Saint-Esprit a fait de cette terre sa demeure depuis le jour de la Pentecôte, n'oublions pas, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans un cantique que nous chantons, d'un monde perdu, fais ta demeure. C'est exactement ce qu'il a fait. Sa demeure est dans l'Église qui est constituée de toutes les véritables croyants dans le Seigneur Jésus-Christ, nous est-il dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit et dans le cœur individuel de tous ceux qui sont de vrais croyants dans le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Bien sûr, nous ne pouvons pas diviser la divinité. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vivait sur terre, le Père était en lui et l'Esprit Saint le remplissait. Et lorsque nous disons que le Saint-Esprit vit sur terre, nous reconnaissons que le Père et le Fils sont présents en lui. Saint Jean chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 25. Donc, un autre consolateur sera en vous. Je viendrai vers vous et mon Père l'aimera. Et nous ferons notre demeure en lui. Mais d'une manière spéciale à présent, la demeure du Père et du Fils est au ciel. Hein? Au ciel. Mais celle du Saint-Esprit, elle est ici sur terre. Et c'est ici qu'il accomplit son œuvre et qu'il exerce sa puissance. Puisque la demeure de Dieu, le Saint-Esprit, est ici sur terre, faites-vous en sorte qu'il se sente chez lui. Est-il chez lui dans votre cœur? Le laissez-vous aller dans chaque coin? Contrôle-t-il vos pensées, vos sentiments et vos choix? Ce grand enseignant est-il chez lui dans votre salle de classe? Le consultez-vous lorsque vous vous préparez à enseigner? Comptez-vous activement sur lui pour qu'il vous enseigne comment enseigner? Lui permettez-vous de contrôler votre comportement envers ceux que vous enseignez? Vous attendez-vous à ce qu'il travaille dans leur cœur? Nous ne pensons ici qu'à un aspect de la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire sa puissance telle qu'elle est montrée en relation avec l'enseignement de la parole de Dieu. Ensuite, nous avons sa puissance alors qu'il agit dans l'enseignant. On vous dit que vos élèves doivent voir Jésus en vous si vous voulez les amener à lui. Avez-vous réalisé que le Saint-Esprit a le pouvoir de faire exactement cela en vous, de créer en vous une ressemblance de Christ, puisque Christ, par son Esprit Saint, habite dans votre cœur? Éphésiens chapitre 3, versets 16 et 17. D'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Cela signifie que nous devons être comme des lettres qui parlent aux gens du Seigneur Jésus-Christ et que la rédaction de cette lettre doit être faite sur nos cœurs par le Saint-Esprit. Si vous devez enseigner, vous devez vous-même être enseigné et c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de vous enseigner à comprendre la Bible d'une manière telle que vous pouvez l'enseigner et la rendre vivante et réelle à vos élèves. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 17, nous dit ceci. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour-là, le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Cela signifie que lorsque nous nous tournons activement vers le Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne, il ouvrira nos yeux pour que nous soyons et surtout pour que nous puissions voir le Seigneur Jésus-Christ dans les Saintes Écritures tel qu'il est d'une manière que nous n'avons jamais eu auparavant. Il nous enseigne. Et comment ? Voyez-vous, je pense à certains qui aimeraient avoir la puissance totale et tous les dons du Saint-Esprit pour guérir les malades. Ce qui est louable. Mais ce n'est pas moi, ni quelqu'un de 18 fois supérieur à moi, qui pouvons guérir les malades. Cela pourra seulement se faire avec l'aide de la puissance et de la toute-puissance de Yahvé l'Éternel, de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, et du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va imposer sa puissance sur ces personnes qu'il guérira, selon ce qu'il sait, pas selon ce que nous savons, car nous ne savons pas grand-chose. Chers amis, je m'excuse de ce petit écart. Ensuite, il vous donne l'Esprit Saint, il vous donne de la puissance pour vous rendre apte à l'enseignement, nous est-il dit dans Luc, chapitre 4, verset 18. Il nous est dit que le Seigneur Jésus-Christ fut oint du Saint-Esprit, souvenez-vous, oint du Saint-Esprit, et ceci pour prêcher. S'il avait besoin de cette onction, réfléchissons, combien nous en avons davantage encore besoin pour tout notre enseignement, est-ce que vous pouvez comprendre cela, chers amis? Enfin, et c'est peut-être le plus important de tout, le Saint-Esprit a le pouvoir de vous enseigner à prier pour vos élèves. Si votre vie lui est soumise, il priera à travers vous, et vous pourrez prier pour eux avec fidélité et conviction, comme vous le devez si vous voulez voir ce vrai résultat spirituel en eux. Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit Saint lui-même, il va intercéder pour nous, pour vous. Nous avons maintenant aussi sa puissance, tandis qu'il agit dans les élèves. Voyez-vous, votre désir, c'est que vos élèves comprennent tellement la parole de Dieu qu'ils parviendront à une connaissance salvatrice de Jésus-Christ et ensuite qu'ils grandiront dans leur vie chrétienne. Dans ce but, ils doivent d'abord être convaincus de péché. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de faire cela. C'est écrit dans Saint Jean, chapitre 16, verset 8 à 9. Car quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ensuite, ils doivent être amenés à comprendre l'œuvre de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit a également le pouvoir de faire tout cela. Saint Jean, chapitre 16, verset 14, je essaye de me donner la peine de vous mettre les indications bibliques, pas que vous pensez que c'est de mon cru. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ensuite, ils doivent être nés de nouveau. Être nés de nouveau, ça c'est très important, et c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de provoquer cette nouvelle naissance en réponse à la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean chapitre 3 verset 5, verset 6 et verset 8. Donc, être né de quoi ? Être né de l'Esprit Saint. Eh oui. Ensuite, ils doivent marcher dans la voie chrétienne et croître dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Cette marche doit être dans l'Esprit Saint, Galates chapitre 5, verset 16. Et c'est sa puissance qui leur permettra de faire tout ce que cette marche implique. Il est également capable de porter témoignage dans le cœur de vos élèves de toutes les vérités que vous cherchez à leur enseigner. Actes chapitre 5, verset 29 à 32. Nous sommes ses témoins, n'oubliez jamais, de même que le Saint-Esprit. Quelle doit être, chers amis, votre attitude envers ce grand enseignant que Dieu vous a donné? Vous devriez parcourir le Nouveau Testament et souligner tous les passages qui vous disent quelle devrait être votre attitude envers le Saint-Esprit. N'en voici que deux, parce que c'est beaucoup trop court sur ce CD. Primo, vous ne devriez pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Je le dis surtout pour moi. N'attristons pas le Saint-Esprit. Cela veut dire que vous, moi, vous ne devriez pas le rendre triste. Vous pouvez faire cela de deux manières. Vous pouvez ignorer sa présence, tout simplement. Si mon enfant rentre à la maison et ne me remarque pas, eh bien, je suis pas trop content. Et le grand enseignant est rendu triste si vous faites votre préparation et vos rendez-vous dans votre classe sans aucune, absolument aucune reconnaissance de sa merveilleuse personne, de sa présence et de sa toute-puissance. Ensuite, il est le Saint-Esprit quand même. Et comment? Et tout ce qui est péché et impie dans votre vie va le rendre triste, aussi petit que soit notre péché. Lui apportez-vous, chers amis, tout votre enseignement et confesserez-vous rapidement vos péchés de sorte que le sang de Jésus-Christ puisse continuer de vous purifier, de me purifier. Voyez-vous, je le dis aussi pour moi. Et secondo, vous devriez entrer dans une association active avec lui. Telle est la signification de la communion du Saint-Esprit, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. À partir des Écritures saintes, cherchez à comprendre ses manières d'agir et mettez vos voix en ligne avec les siennes. Par exemple, il est l'Esprit de vérité. Veuillez à connaître la vérité du sujet que vous enseignez. Il est l'Esprit de vie. Les sujets que vous enseignez doivent être vivants et pas à moitié morts dans votre propre expérience même. Autrement, ils n'apporteront pas la vie à vos élèves. Il est celui qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Donc, laissez votre enseignement être rempli du Seigneur Jésus-Christ. À l'heure actuelle, il existe une très bonne littérature préparée pour aider ceux qui enseignent la parole de Dieu. Cette littérature peut vous aider à choisir ce que vous enseignerez et les meilleures méthodes d'enseignement. Il existe également de nombreuses aides visuelles qui ont été préparées pour vous aider, en particulier dans l'enseignement des petits-enfants, et toutes peuvent être d'une très grande bénédiction pour vous. Mais rappelez-vous que si votre enseignement doit produire des résultats durables, l'unique qualité indispensable est absolue, c'est que vous reconnaissiez constamment la personne, la présence et la puissance de l'enseignement divin qui est Dieu le Saint-Esprit. Chers amis, pour tous ceux qui enseignent, qui prêchent ou ont une responsabilité dans le corps de Christ, voici quelques directives qui peuvent être utiles. Dans l'Église, l'Esprit de Dieu agit comme étant l'Esprit de sainteté. Premièrement, en éduquant. L'Esprit Saint glorifie la tête Jésus-Christ envers les membres du corps de Christ en leur montrant sa gloire. Saint Jean chapitre 16, verset 14. Le Saint-Esprit conduit les rachetés dans les chemins de la droiture. Alors là, vous pouvez noter quelques indications utiles, telles que Romains chapitre 8, verset 14, Galates chapitre 5, verset 25. Et il opère leur sanctification. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Le Saint-Esprit les réconforte comme un avocat, en grec, parakletos. Saint Jean, chapitre 14, verset 14 à 18. Et il leur donne son témoignage. Romains, chapitre 8, verset 16. Le Saint-Esprit les convainc lorsque ils sont infidèles et il les mène à la repentance. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 5 à 11. Le Saint-Esprit leur enseigne les paroles de Jésus-Christ, Saint Jean chapitre 14 verset 26, et il les conduit dans toute la vérité, Saint Jean chapitre 16 verset 13 et 1er épître de Jean chapitre 2 verset 20. Deuxièmement, en équipant pour le service. Eh oui. Ensuite, il les prépare et il les utilise comme ses instruments. Il règle leurs dons et les divise d'après sa propre volonté. D'après sa propre volonté, souvenez-vous. Pas d'après notre volonté, pour penser que nous pouvons faire n'importe quoi. Ah non, ça va pas se passer comme ça. Donc, on a dit, il règle leurs dons et les divise d'après sa propre volonté. Alors, vous pouvez noter 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 11. Le Saint-Esprit désigne également leur service, dans l'Église et dans ses rassemblements. Vous pouvez noter certains versets, tels que Actes chapitre 13, verset 4, toujours Actes chapitre 16, verset 6 à 7, et encore Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 à 30. Le Saint-Esprit anime leurs prières. Jude, chapitre 20, Éphésiens, chapitre 6, verset 18, et concède à cette autorité. Romains, chapitre 8, verset 26. Le Saint-Esprit conduit leurs témoignages. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 20, ainsi que la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 12, et il les remplit de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, Romains, chapitre 15, verset 19, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, Actes, chapitre 4, verset 31, ainsi de suite. Et si on leur fait des reproches, il demeure sur eux comme étant l'Esprit de gloire. Souvenez-vous de ça, c'est merveilleux. Et si on leur fait des reproches, il, l'Esprit Saint, demeure sur eux comme étant l'Esprit de gloire. Dans tout ceci, le Saint-Esprit est la puissance d'en haut. Saint Luc, chapitre 24, verset 49, ainsi que Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. A, comme un arbre qui porte du fruit. Galates 5, verset 22. B. Comme une huile qui oint et qui brille. Actes chapitre 10, verset 38. C. Comme un feu qui flamboie. Actes chapitre 2, verset 3 à 4, ainsi que 2 Timothée chapitre 1, verset 6. D. Comme une eau qui purifie. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 et 26. Et comme la première pluie qui rafraîchit. Joël chapitre 23, verset 23 et verset 28. F comme un murmure doux et léger. Zacharie chapitre 4, verset 6, ainsi que dans l'Ancien Testament, 1 Roi, chapitre 19, verset 12 et 13. Et ensuite, G, comme un vent tournoyant, mystérieux et pourtant très puissant. Acte 2, verset 2, ainsi que Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Et troisièmement, en transfigurant, quant à l'avenir, l'Esprit Saint est le garant de notre délivrance. C'est le sceau de notre salut. Éphésiens 1, verset 13. Et 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Ce sont les arts de notre héritage. Éphésiens, chapitre 1, verset 14, ainsi que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. L'intérêt sur l'état glorieux à venir, les prémices de la moisson éternelle future. Romains chapitre 8, verset 23. Et parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, de son Esprit Saint, eh bien Dieu ne le laissera pas dans un désert. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, chers amis, eh bien celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit Saint qui habite en vous. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 11. Ainsi, la signification de la Pentecôte a une portée jusque dans l'éternité. Par l'Esprit Saint, nous sommes des fils. Romains 8, verset 14, Galates 4, verset 6 et 7. Et en tant que fils, nous sommes des héritiers. Romains chapitre 8, verset 14 et 17. Ainsi que Galates chapitre 4, verset 7. Et en tant qu'héritiers, eh bien, nous sommes des participants dans sa gloire à venir. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 17. Chers frères et sœurs, la sainteté est vraiment un ensemble. C'est une plénitude de beauté. Seul l'homme saint, saint d'esprit, est celui qui est plein de bonté. Seul l'homme tout entier peut être saint. Aucun homme ne peut atteindre ce qu'il a de plus élevé s'il exclut le ciel de sa vie. Rappelez-vous, ce ne sont pas les gens qui parlent le plus de la sainteté qui en ont toujours le plus. Pas du tout. Il y a davantage de bruit lorsque une allumette est allumée que lorsque le soleil se lève. Parfois les gens déclarent qu'ils sont plus parfait que les autres, non pas parce qu'ils ont moins de fautes, mais parce qu'ils sont plus aveugles. Moïse n'était pas conscient que son visage resplendissait. C'est mieux de ne pas savoir quand votre visage brille. Une sainteté qui se vante n'est plus une sainteté. Une bonté qui contemple sa propre beauté n'est plus une bonté d'un ordre élevé. La beauté perd son charme lorsque elle devient gauche. L'intelligence est gâchée lorsque un homme sait qu'il est tellement intelligent. Certaines personnes ont peur de trop de religion. Elles pensent que cela signifie qu'il faut prendre davantage de bagages, alors qu'en réalité, c'est obtenir davantage de sagesse. Il est plus facile d'entretenir un bon feu qu'un très petit. Il est plus facile de vivre une religion à tout craint plutôt qu'une qui soit ultra-libérale, que vous ne pouvez jamais dire à quoi elle ressemble. Un homme bon à une réunion de prière, il a dit un jour ceci. « Nous te remercions, ô Dieu, de ce que nous existons, de ce que nous ayons confiance et que nous soyons encore en vie. » C'est exactement le cas pour de nombreuses personnes. Elles existent, elles ont confiance, elles sont encore en vie, mais le problème c'est qu'elles n'en sont pas tout à fait sûres. Si elles sont en vie, elles ne sont certainement pas pleines d'entrain. C'est un état misérable, ce genre d'existence de mort-vivant. Le chrétien devrait être complètement vivant, pas à moitié, vivant de la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête. Levez-vous de la vallée et vivez sur les collines. Vous découvrirez que le chemin est plus plat, le pas plus assuré et la compagnie meilleure, plus haut vous irez. Plus vous vous approcherez du ciel, chers amis, moins il y aura de tentations. Cela est aussi clair que l'eau de source. Et oui, le secret de la sainteté, c'est évidemment l'ampleur. Elle ne consiste pas à faire des choses remarquables, mais à faire des choses courantes et remarquablement bien. Voyez-vous, l'homme extraordinaire dont le monde a besoin est un homme commun, extra plein de sainte ardeur. Les hommes devraient être les plus brillants et les plus braves du fait qu'ils sont croyants. Comme l'a dit un jour un natif des Highlands chrétiens, nous sommes convertis, mais nous ne sommes pas mous. Lorsque un homme est vraiment converti, il est converti en un homme plus noble et plus viril. En général, il obtient non seulement un cœur nouveau, mais aussi une nouvelle énergie. Ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir faire un 100 mètres en 10 secondes. Non, 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 ça veut pas du tout dire cela. La vie serait donc une chose banale, pauvre et insipide, sans qu'il n'y ait un au-delà. Ce sont les sommets inatteignables qui rendent la vie intéressante. La mort de l'espoir, c'est la paralysie de l'effort. Celui qui pense qu'il n'a pas d'avenir n'aura bientôt aucun présent. Il y a certaines personnes qui ont très peur de chaque lendemain. Depuis toujours, il a été prouvé que le chrétien était une imposture, que la chrétienté, on dit souvent, est une imposture. On dit cela dans le monde. Et pourtant, voyez-vous, c'est le pouvoir le plus puissant de notre époque. L'évangile est tué chaque année, et pourtant, il n'y a personne qui puisse l'enterrer, car elle est un corps trop vigoureux pour une tombe quelconque. Nous prendrons pour mot d'ordre obligeance et encouragement. Nous n'avons aucun droit d'être plein d'espoir tant que nous ne sommes pas serviables. Si nous sommes serviables, nous serons pleins d'espoir. Ceux qui travaillent dur sont les vrais optimistes. Ils ont un droit à l'existence. Je suis reconnaissant pour le passé, mais je crois en l'avenir, un avenir plus glorieux que le monde ait jamais connu. Le bon vieux temps doit venir, bientôt. L'âge d'or est devant nous et pas derrière nous. Le meilleur est encore à venir et nous devons le rendre ainsi. Dieu nous a donné des hommes. Une époque comme celle-ci requiert des grands cœurs et des espoirs forts et des esprits forts. Elle a besoin d'une foi véritable et des mains secourables. Avant de terminer par la prière, chers amis, j'aimerais vous dire que Dieu veut, il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin, comme nous avons besoin. Il ne nous équipe pas d'un seul coup pour tout le service d'une vie. Il ne s'attend pas à ce que nous peignions tout le long du chemin, que nous devons peiner, que nous devons souffrir épouvantablement. Pourtant, sur notre dos, nous pouvons porter le fardeau, mais nous n'avons pas besoin de le porter. Nous n'avons pas besoin de porter des provisions de l'année prochaine, mais pas du tout, car sur le chemin, il y a des provisions fraîches, il y a une lumière fraîche, il y a une puissance fraîche, il y a de nouvelles révélations lorsque les circonstances vont l'exiger. Oui, oui, croyez-moi, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est ce qui est important. Être tellement rempli de la présence du Seigneur Jésus-Christ est tellement un avec lui que sa vie puisse couler à travers nos veines, même si elles sont un petit peu obstruées parfois, surtout à un certain âge. Qu'il puisse emprunter nos lèvres pour donner ses messages, emprunter nos visages pour regarder avec ses yeux d'amour et de patience nos mains pour accomplir son service et nos pieds pour parcourir ses voyages fatigants. Le cher maître ne peut jamais plus être fatigué près d'un puits quelconque, mais nous pouvons être près de nombreux puits pour lui. Et oui, quelle que soit la suffisance de Christ pour nous, il y a la même suffisance en lui pour tous ceux qui lui font confiance. Dans les moments de découragement, cela nous aide, croyez-moi, beaucoup de nous rappeler que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ n'est pas notre œuvre à nous pour le Seigneur, mais le propre travail du Seigneur par nous et par les autres. Il ne tombera pas et ne sera pas découragé celui qui se confie dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous pouvez me croire. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière. Prions tout simplement ensemble maintenant. Mon Dieu, je voudrais consacrer à toi. Je voudrais vraiment me consacrer à toi. Je voudrais me recueillir. Oui, je voudrais être fort. Mon Dieu, je sens qu'en toi seul est la vérité. Christ est la vérité. Nous aimons le Christ. Oui, mon Dieu, le monde sera heureux et beaucoup, vraiment, beaucoup plus beau. Et beau, surtout quand le Christ régnera. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de souillure, mais de l'or et du cristal, et les larmes des saints seront devenues des perles. Mon Dieu, que te dire en ma sincérité? Tu es vraiment la force, donc tu peux me fortifier. Tu es vraiment la paix, donc, s'il te plaît, pacifie-moi. Ô mon Dieu, que nos vies soient devant toi comme un tapis étendu sur ton chemin, afin que tu puisses y passer. Quand nous voyons les hommes te pressentent, quand nous, ils puissent découvrir Christ. Ô mon Dieu, quand toi s'opèrent les synthèses, se réparent toutes les erreurs, s'accomplissent tous les longs, patients et obscurs exploits, quand nous, tu sois vraiment exalté, quand nous, ô Jésus-Christ, sois salué, qu'il soit salué, béni d'éternité en éternité, et que les âmes vivent et soient sauvées. Amen. Amen. Et chers amis, voyez-vous, et je suis un peu triste parfois de le répéter parce que il y en a qui veulent pas croire que c'est vrai. On dit partout que Dieu aime absolument tout le monde, tout un chacun tel qu'il est. Mais ça, c'est nous. C'est nous qui déformons avec notre façon d'être des humanistes totales. Mais ce n'est pas la Bible qui dit cela. C'est probablement seulement l'humanisme, les philosophies religieuses peut-être. Ça, c'est nous qui déformons très habilement ce que la Bible nous dit. Évidemment, il est vrai que Jésus-Christ est mort pour tout un chacun. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut lire un peu plus loin. Car la Bible dit « Dieu aime tous ceux quoi ?» Tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Par contre, ceux qui ont refusé, carrément refusé, son salut, sa main tendue, n'obtiendront jamais la rédemption selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 7. C'est pas moi qui le dis. Chers amis, si vous avez placé votre foi, votre vie en Jésus-Christ, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, selon Romains, chapitre 8, verset 1. Voyez-vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint de Christ, il ne peut pas, absolument pas, c'est pas possible, il ne peut pas lui appartenir, il ne lui appartient tout simplement pas. Encore, notez Romains chapitre 8, verset 9. Prenons cela, chers amis, quand même très au sérieux. Je vous remercie de toute façon pour la patience que vous avez d'écouter ces messages, ces études, et merci encore si vous avez le courage de continuer d'en écouter d'autres, et surtout la suite qui va durer encore un bon moment, mais qui va fortifier et qui va aider et surtout renouveler même ceux qui servent le Seigneur, que ce soit en Europe, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada. Eh bien oui, même des serviteurs de Dieu pourront par ces messages apprendre et être renouvelés dans leur vie spirituelle. Ça, vous pouvez me croire. Au revoir, chers amis, et à bientôt. Merci.